Merci d'écouter RFI. Il est minuit, ici à Paris, 22h, en temps universel.
24h en France sur RFI.
Et prenez donc place pour votre demi-heure consacrée à l'actualité française. Ravi de vous accueillir.
Martin Guez.
L'élève français a eu chaud. L'agence de notation Fitch maintient la note française avec une perspective négative au lendemain de la présentation du budget 2025. Justine Fontaine du service économie nous en dira un peu plus dès le début de ce journal. L'éducation nationale, elle est la grande perdante des arbitrages du gouvernement avec la suppression de 4000 postes d'enseignants, ce qui provoque la colère des syndicats. Le Doliprane, médicament le plus vendu dans l'Hexagone, pourrait passer sous pavillon américain. Un coup dur pour la France. Et puis vous entendrez également la ministre déléguée à l'énergie, Olga Giverné, au micro RFI de Simon Rosé avant la COP29 dans un mois à Bakou. Tandis que dans la deuxième partie de 24 ans en France, nous reviendrons sur le projet de loi de finances avec le député insoumis Éric Coquerel. Il sera notre invité. Le reportage culture nous emmène danser au Féladeil. Et nous terminerons avec nos rendez-vous habituels, le journal de l'Outre-mer et le conseil santé de Caroline Paris. 24 ans en France, vous avez le programme, c'est parti.
24 heures en France.
La France qui pousse donc un ouf de soulagement en recevant son bulletin de notes. Après avoir évalué son déficit public au-dessus de 6% du PIB en 2024, la France craignait de passer au rang des mauvais élèves, car l'une des grandes agences de notation, à savoir l'agence Fitch, rendait son rapport d'évaluation ce soir. Et au lendemain de la présentation du budget 2025, l'agence qui aurait pu dégrader la note financière française, qui est pour l'instant double A moins, et on retrouve en direct Justine Fontaine du service économie de RFI. Justine, l'agence Fitch qui a finalement maintenu la note française avec un bémol, car elle place le pays sous perspective négative. En quelque sorte, la France est sous surveillance avant le vote du budget au Parlement.
Voilà, l'agence dit attention, pour l'instant la note reste la même, AA-, donc une bonne note, hein, l'équivalent d'un 17 sur 20, mais si les mesures qui sont prises pour contrôler le déficit ne sont pas assez strictes ou pas assez efficaces, eh bien la note pourrait baisser. L'agence connaît depuis ce jeudi, vous le disiez, les pistes du gouvernement pour faire 60 milliards d'euros d'économies, supprimer des postes de profs dans l'éducation nationale, augmenter les taxes sur l'électricité ou encore augmenter les impôts des plus riches. Mais Fitch souligne qu'on ne sait pas encore ce qui sera effectivement voté au Parlement et que le déficit public ne devrait pas passer sous la barre des 3% avant 2029, soit 2 ans plus tard que prévu par l'agence dans sa dernière revue. Cette note, aujourd'hui, c'est donc un sursis. Et si elle était dégradée plus tard, eh bien, la France devrait payer plus cher pour emprunter sur les marchés financiers et ensuite dépenser plus d'argent aussi pour rembourser sa dette et les intérêts chaque année, alors que c'est déjà le deuxième poste de dépenses publiques après l'éducation.
Merci Justine Fontaine, en direct dans 24 ans en France. Et puis à noter que les deux autres grandes agences de notation, Moody's et Standard & Poor's, actualiseront leurs notes d'ici la fin novembre. La France en sursis donc, alors que le projet de loi de finances était présenté hier soir en Conseil des ministres, et le ministère de l'Éducation nationale qui est le grand perdant du budget 2025, avec 4000 suppressions de postes d'enseignants, principalement en maternelle et en élémentaire. Des annonces qui ont scandalisé les syndicats enseignants, comme Guylaine David, elle est porte-parole du SNUP FSU.
Pour nous, c'est un vrai sabordage de l'école publique qui est organisé par le gouvernement. On est dans une volonté de réduire drastiquement les moyens de l'éducation nationale en fermant des classes parce que ça va forcément se concrétiser sur le terrain de nos écoles dans des fermetures de classes. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on avait 650 postes supprimés dans le premier degré et on a eu 1700 fermetures de classes. Donc, on sait que l'année prochaine, on va en avoir des milliers de fermetures de classes. Et ça veut dire que sur le terrain, c'est dans certains endroits, dans certains de nos territoires ruraux, très certainement des fermetures d'écoles qui vont être à l'œuvre. Et on sait que l'école publique, c'est encore le dernier service public qui existe dans certaines communes. Donc on voit bien que là, on va avoir des communes qui vont plus bénéficier d'une école publique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible pour le monde enseignant et les professeurs des écoles aujourd'hui, parce que on va avoir des baisses drastiques.
Guylaine David, porte-parole du SNUP FSU au micro RFI de Sylvie Coffi. Le budget français 2025, sur lequel nous reviendrons en deuxième partie de 24 ans en France, avec notre invité Éric Coquerel, député insoumis et président de la commission des finances à l'Assemblée. Le président Emmanuel Macron semble, lui, bien loin des affaires courantes. Simple spectateur du projet de loi de finances en Conseil des ministres, le chef de l'État, qui a donné un entretien fleuve au magazine américain Variety. Il a notamment dit tout son amour pour la série Netflix Emily in Paris, espérant que les tournages ne partent pas à Rome. Assez loin donc de la proposition de budget 2025 de son Premier ministre Michel Barnier. Emmanuel Macron qui se retranche désormais sur son domaine réservé, Charles-Turien Tomaka.
Emmanuel Macron, silencieux pendant le Conseil des ministres, laissant surtout la parole au ministre de l'économie Laurent Saint-Martin et se gardant bien de donner son avis sur le budget selon un participant. Pourtant, entre hausse d'impôts et augmentation de taxes pour certaines entreprises, les fondamentaux du macronisme sont remis en cause dans ce budget présenté en Conseil des ministres. Mais non, le chef de l'État reste en retrait, explique son entourage. Oui, ses convictions économiques sont connues, mais on a changé d'époque, c'est un temps nouveau, rappelle même l'Élysée, référence ici aux élections législatives perdues par le parti présidentiel. Pourtant, le président espère quand même que le texte sera amendé par le Parlement et que les députés de son camp y apporteront des modifications substantielles et arriveront à faire entendre leur voix. Et qu'importe les frottements et la rugosité dans la majorité atypique entre macronistes et droite traditionnelle, assume un conseiller.
Charles-Turien Tomaka du service politique de RFI.
24 heures en France.
Le Doliprane pourrait passer sous pavillon américain, ce qui ne plaît pas du tout aux parlementaires français. Le Doliprane, c'est ce médicament de la vie courante, utilisé notamment contre les douleurs, contre la fièvre et contre les maux de tête. C'est le plus vendu en France et ce vendredi, le laboratoire Sanofi annonce la vente d'Opelia, sa filiale qui fabrique le médicament, à un fonds d'investissement américain. Des parlementaires de tous bords politiques qui exhortent le gouvernement à bloquer cette opération au nom de la souveraineté sanitaire française. Les députés qui craignent à la fois pour l'emploi et pour l'approvisionnement en médicaments, Alexis Bédu.
Opella, c'est le Doliprane, la Lisopaïne et d'autres marques de médicaments grand public. Le fonds américain CDNR en propose 15 milliards d'euros. Les ministres français de l'économie et de l'industrie préviennent ce matin, je cite, qu'un certain nombre d'engagements économiques seront exigés sur l'approvisionnement en médicaments et sur l'emploi. Mais pour Frédéric Bizard, économiste de la santé, il sera difficile d'éviter les délocalisations.
Vous êtes sur une logique d'ultra-financiarisation, que vous n'avez plus des industriels en face de vous, vous avez des fonds d'investissement qui sont un peu partout dans le monde et qui sont très difficiles à personnaliser.
Opella a toujours deux sites de production en France. Sanofi conservera la moitié du capital de la société encore quelques années, mais cet ancrage français sera désormais bien fragile pour Frédéric Bizard.
Ça veut dire qu'en général, ça se fait en deux temps. Un premier temps où on vous promet des garanties à 3 à 5 ans de conserver les emplois, de conserver la production en France. Mais comme, de toute façon, cela n'est pas assez rentable de produire en France des produits à bas prix, vous avez dans le deuxième tour de table une cession à d'autres fonds qui assurent cette délocalisation et l'État français ne peut plus rien dire parce qu'il est minoritaire.
Sanofi avait annoncé son intention de vendre sa filiale il y a un an, expliquant vouloir concentrer ses efforts d'investissement sur le développement de médicaments innovants plus lucratifs.
Alexis Bédu, en Martinique, la situation reste tendue malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne. Les forces de l'ordre ont eu du mal à contenir les émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île française des Antilles. Entre barricades enflammées et magasins brûlés ou pillés, deux personnes qui circulaient sans casque sont mortes à moto la nuit dernière lors d'une collision avec une voiture. L'aéroport de Fort-de-France a par contre ouvert ce vendredi après avoir dû fermer en raison de l'intrusion sur les pistes d'une centaine de manifestants. L'actualité des Dom-Tom a retrouvé dans le journal de l'Outre-mer de Benoît Ferrand dans la deuxième partie de 24 heures en France. Dans un mois débute la COP29 sur le climat, ce sera à Bakou, en Azerbaïdjan. Et les divergences sont grandes entre les États autour des questions financières. Au menu des discussions, la renégociation de l'aide des pays riches à destination des pays en développement. Pour l'instant, l'enveloppe est de 100 milliards d'euros par an, largement insuffisant pour le groupe africain, par exemple, qui réclame 13 fois plus. Et c'est là que ça coince. Une rencontre informelle pour préparer la COP s'est tenue ce vendredi à Bakou. Une rencontre à laquelle assistait Olga Givernet, ministre française déléguée à l'énergie, que Simon Rosé a réussi à joindre pour RFI.
Une demande de transparence sur les financements et également d'atterrir sur quel est le besoin identifié. On est à plus de 1000 milliards, mais il faut savoir que dans les financements publics des pays en développement, ce ne sera pas ce montant-là qui sera annoncé. En revanche, il peut y avoir un engagement volontaire qui permette de débloquer notamment des financements privés pour atteindre ces objectifs de moyens supplémentaires pour aller aider les pays vulnérables, pour prendre en compte aussi les pertes et dommages liés à des événements climatiques. Et on voit qu'il y a pour le moment une fermeture de la part de ces pays qui étaient identifiés dans l'accord de Paris comme étant des pays en voie de développement et qui ont réussi ce développement et qui pourraient contribuer. Mais les positions des uns et des autres sont posées sur la table. Les engagements qui devront être pris doivent être pesés pour que nous soyons ensuite au rendez-vous de nos engagements.
La ministre française déléguée à l'énergie, Olga Givernet, jointe pour RFI par Simon Rosé du service environnement. On termine ce journal avec les journées nationales des réservistes. L'opération débute ce samedi et elle dure jusqu'au 12 novembre. En l'état, la garde nationale française compte environ 80 000 membres, un chiffre que les autorités aimeraient doubler d'ici 2030. Pour la générale Karine Lejeune, secrétaire générale adjointe de la garde nationale, ces journées sont une bonne occasion de mettre en lumière l'engagement citoyen des réservistes.
Les journées nationales des réservistes vont permettre de mettre en lumière cet engagement citoyen d'hommes et de femmes de 17 à 72 ans qui donnent de leur temps au quotidien au profit des forces de sécurité intérieure et des forces armées. Et donc, sur tous les territoires, ça va être vraiment la mise en lumière de cet engagement, de cette volonté de servir les citoyens, la population, le pays, avec ses moyens, que l'on soit jeune ou plus âgé, que l'on soit petit ou grand, vraiment avec ses compétences. Et donc, ces journées nationales des réservistes, c'est vraiment la possibilité pour tout un chacun de découvrir ce qu'est la réserve et donc, pourquoi pas, de créer des vocations. Il faut vraiment, sur tous les territoires, venir sur les différents sites des armées, de la gendarmerie, de la police ou le site internet de la garde nationale pour découvrir tous les lieux où les citoyens pourront découvrir les réservistes et découvrir ce qu'est la réserve opérationnelle.
La générale Karine Lejeune, secrétaire général adjointe de la garde nationale, au micro de Frédéric Genot. Voilà, c'est la fin du journal. Mais restez à l'écoute. Tout de suite, place à notre invité.
24 heures en France. Martin Guèze.
Au lendemain de la présentation de la feuille de route de la future loi de finances 2025, le budget français fait toujours beaucoup parler. Avant son passage en commission, puis dans l'hémicycle, en session plénière, il est surtout largement commenté par les oppositions. Manque de rupture pour l'extrême droite, cure d'austérité pour la gauche. Malgré une taxe exceptionnelle des plus grandes entreprises et des ménages les plus aisés, le nouveau Front populaire pointe la suppression de 4000 postes d'enseignants et plus de 2000 postes de fonctionnaires. Notre invité est ce soir Éric Coquerel. Il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis. Il répondait à la mi-journée aux questions de Marion Cazeneuve. Et pour Éric Coquerel, ce budget n'a définitivement rien de gauche.
Ce budget met à contribution les plus riches? Non, ce budget met surtout à contribution les classes populaires et moyennes de ce pays. D'abord parce qu'il prévoit environ 36 milliards d'euros de baisse de dépenses sociales publiques et que chacun sait que c'est évidemment des services rendus, des prestations pour tous ceux qui n'ont pas des moyens d'aller dans le privé pour les compenser. Donc ça va toucher la vie de millions de Français parmi les plus défavorisés. Deuxièmement, même en termes de fiscalité, vous mettez en avant les 2 milliards pour les 0,3% les plus riches, mais qui, rappelons-le, sera temporaire. Mais par exemple, il y a une taxe sur l'électricité qui va toucher quasiment tous les Français, qui rapporte 3 milliards. Donc en réalité, c'est un budget d'austérité et c'est un budget profondément inégalitaire.
Mais il n'y a pas quelques mesures quand même que vous saluez sur ces augmentations d'impôts? Il y a aussi la refonte du système des charges patronales. Ce sont des mesures portées par la gauche traditionnellement?
Les mesures dont vous parlez, alors moi je suis ravi qu'elles soient sur la table parce que quelque part elles nous donnent raison sur ce que nous disons depuis des années, c'est-à-dire que on a organisé le déficit dans ce pays en baissant des recettes, et notamment pour les plus riches. Donc on en récupère une partie, encore une fois sur 2 ans seulement, au maximum, mais elle pèse peu en termes de chiffres par rapport à l'ensemble des mesures de ce budget qui, elles, vont impacter sur la vie de millions de Français.
Mais alors le Premier ministre Michel Barnier a insisté sur le fait qu'il a eu peu de délai pour faire ce budget, 2 semaines, et il n'exclut pas quelques ajustements. Lesquels espérez-vous d'ici là?
Nous allons profondément transformer ce budget avec des amendements, l'amener vers ce que, par exemple, nous proposons au niveau du nouveau Front populaire, c'est-à-dire non pas 2 milliards de taxes d'impôts en plus pour les plus riches, mais 50 milliards d'euros prises sur les grandes entreprises, prises sur les super profits, prises sur les super dividendes, prises sur nos concitoyens les plus riches, qui, à mon avis, peuvent être votées par cette Assemblée. C'est-à-dire que c'est ça que nous allons essayer d'imposer à ce gouvernement, un budget profondément remanié. Et puis, plus globalement, je doute que M. Barnier aille très loin dans la conciliation avec nous. Il aura un moyen de le faire. À la sortie de la commission, ce budget sera beaucoup transformé, que j'appelle NFP compatible, Nouveau Front Populaire compatible. On verra bien si, dans ces cas-là, il garde le budget. Je ne le crois pas et je vous rappelle qu'il a déjà menacé du 49-3.
Pour beaucoup, ce projet passera en force avec le fameux article 49.3, si ça ne marche pas par le vote. À ce moment-là, comment vous répondrez? Est-ce que vous envisagez une motion de censure?
Oui, bien sûr. Et je pense que la motion de censure sera votée et que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Moi, c'est ma conviction, parce qu'il n'a aucune majorité dans cette Assemblée et que S'il passe en force, je pense qu'il rencontrera un mur.
Et l'extrême droite, qui elle est la troisième force à l'Assemblée, a déjà fait savoir qu'elle ne voterait pas ce budget non plus. Donc est-ce qu'il est possible que vous votiez ensemble cette motion de censure ?
Alors, il est possible qu'elle vote notre motion de censure, plus exactement, nous qui la déposerons, et qu'elle la vote. Et dans ces cas-là, ça, de toute façon, ça reflétera le fait que ce gouvernement est ultra minoritaire à l'Assemblée et qu'il faudra bien changer de gouvernement. Et dans ces cas-là, la question pour le président de la République sera de soit appeler un gouvernement nouveau Front populaire, comme il aurait dû le faire depuis juillet, soit de démissionner. Il faut comprendre que la seule façon pour le gouvernement, j'allais dire, de s'en sortir sans vote, ça serait que le Parlement soit responsable de dépassement de délai. On a 70 jours en tout pour voter ce budget. Et si, parce qu'on déposait trop d'amendements ou qu'on faisait trop durer les débats, on arrivait à ne pas voter, le gouvernement peut le passer par ordonnance sans vote. Donc, ça serait la pire des solutions pour nous. Donc, on va faire en sorte de ne pas arriver là, mais en même temps, de mettre les amendements suffisamment forts sur la table pour le transformer et montrer que nous avons une majorité pour le transformer.
Éric Coquerel, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de Marion Cazeneuve ce midi sur RFI. Entretien à retrouver dans son intégralité sur notre site www.rfi.fr. Et on va faire la fête, on fait la fête ce samedi avec le Féladé, Paris qui fête Fela Kuti, génial inventeur de l'afrobeat, l'artiste nigérian disparu en 1997, qui est encore bien vivant à travers sa musique. L'association Afrobeat No Limit réunit une vingtaine de musiciens sur scène, ça se passe au New Morning à Paris. On se met dans l'ambiance Fela Koutienne avec les initiateurs et musiciens du Fela Day. Reportage immersif avec Olivier Roger.
En Occident, on peut interpréter ça comme la journée de Fela. Mais Fela Day, quand on le dit en pidgin, ça veut dire que Fela existe toujours.
Nazer Bello est le producteur du Fela Day, l'initiateur d'une association Afrobeat No Limit qui, depuis près de 20 ans, travaille à la promotion de cette musique.
Heureusement, on constate aujourd'hui que l'Afrobeat résonne bien partout dans le monde, à Londres, à New York, à Tokyo, à Paris surtout, puisque c'est une des premières tailles d'accueil de Fela Nicolas Pokuti.
France, terre d'accueil de l'Afrobeat, mais aussi de musiciens qui ont joué dans les orchestres de Fela, Africa 70 et Egypt 80. C'est le cas du guitariste Kiala Nzavotunga, en répétition toute la semaine à Bobigny avec les musiciens du Fela Day.
Fela Day pour moi c'est très grand parce que moi j'ai joué avec ce grand monsieur, Fela Nicolas Pokuti, j'étais son guitariste, donc je suis content. Avec Fela, j'enregistrais cet album Original Sofa Head. C'est un grand souvenir, je te jure.
Des souvenirs de Fela, le trompettiste Muyiwa Kunuji en a à l'appel. Il se souvient encore du jour où il a auditionné devant le génial musicien nigérian. C'était en 1981.
When I went for audition, I was just shaking.
Quand je suis arrivé pour l'audition, je tremblais. Et quand il m'a dit « joue ce que tu veux », ma tête s'est littéralement vidée. J'ai juste mis ma trompette à la bouche et j'ai fait de la merde. Après un moment, il m'a dit « arrête ». Il a commencé à me demander de jouer des accords en mi mineur, des trucs comme ça. Et il m'a posé une question qui m'a bluffé. Il voulait connaître la nature de mon son. Avec lui, on pouvait jouer à la perfection, mais si on n'avait pas de son, il pouvait vous dire de revenir dans 6 mois. Et moi, j'ai eu la chance qu'il s'intéresse à mon son.
Le Fela Day sera aussi l'occasion d'écouter les musiciens de la jeune génération et parmi ceux-ci, le saxophoniste de jazz Benoît Croast. Il se souvient de son premier Fela Day, c'était en 2011.
On s'est vraiment plongé dans la musique de Fela d'une façon vraiment quasiment scientifique, c'est-à-dire qu'on l'a pris pour ce qu'elle est, c'est une grande musique classique africaine.
27 ans après sa disparition, Fela est donc toujours d'actualité et sa musique appartient désormais au patrimoine mondial. If you call a woman, African woman, no go green. She go say, I be lady yo. If you call a woman, African woman, no go green. She go say.
Voilà, ça donne envie et ça fait danser le René Moza derrière la vitre du studio. Le Fela Day, c'est ce soir au New Morning à Paris. Vous pourrez bien y voir Olivier Rejeu et Sidé Hanché qui signaient ce soir le reportage culture.
Le journal des Outre-mer.
Et direction Mayotte, où les passagers embarquant pour l'île comorienne voisine d'Anjouan ont été passés au peigne fin ce vendredi matin. C'est à la une de votre journal, Benoît Ferrand. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Des contrôles qui se multiplient d'ailleurs ces derniers temps du côté de la gare maritime de Dzaoudzi. Ce que les douaniers recherchent, c'est de l'argent liquide, des dizaines de milliers d'euros provenant d'activités dites informelles et qui s'échapperaient ainsi, entre guillemets, en direction des Comores, comme le précise le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville. Il est au micro d'Ibrahim Yaya.
Moi, mon objectif, c'est de protéger Mayotte. Et dans la protection de Mayotte, c'est de protéger l'économie mahoraise. Donc tout ce qui relève de l'économie informelle doit être sanctionné, doit être contrôlé. Nous constatons que nous avons toujours des mouvements financiers qui sont relativement importants. Et d'ailleurs, je remercie la direction régionale des douanes à mes côtés d'avoir mis en place ces contrôles. Mais nous constatons que nous avons encore des flux financiers qui témoignent que l'économie informelle doit être continuée. Nous devons continuer à la combattre pour faire en sorte d'abaisser ce niveau de transfert de fonds vers l'étranger. Nous allons effectivement, en liaison avec la direction régionale des douanes, multiplier les contrôles. Et je ne vais pas vous dire où, parce que si je vous dis où, les gens vont savoir qu'ils vont être contrôlés, donc ça restera secret.
Direction l'océan Pacifique, longtemps dangereuse, pour ne pas dire impossible, la traversée de la tribu de Saint-Louis entre Nouméa et le Mont d'Or, nous sommes bien sûr en Nouvelle-Calédonie, eh bien cette traversée est aujourd'hui un peu moins aventureuse et un peu plus sécurisée. Mais il a fallu pour cela déployer un impressionnant dispositif de forces de l'ordre sur la route territoriale numéro 1. Reportage Charlotte Manvi.
Au Tabor, le verrou nord a été poussé sur le côté. Sous un tivoli, un écran permet de visualiser les images de la route envoyées par drone. Une carte est déployée. Pour l'officier en charge de la coordination des convois, pas question de voir à nouveau un automobiliste se faire carjacker.
On a eu fait cet après-midi 2 ou 3 levées de doute sur des tentatives de caillassage sur les convois. On a installé une petite structure de coordination ici qui nous permet d'avoir à la fois des retours radio, de l'image, pour préparer ces escortes et pour s'assurer que lors de leur passage, on n'ait pas de difficultés particulières. J'entends par difficultés particulières des caillassages, des obstructions sur l'axe, des prises à partie.
Tous les kilomètres des Centaures, ces blindés dernière génération. Certains passages sont particulièrement surveillés. Une vigilance toujours indispensable. Le général Nicolas Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Il y a 6 Centaures et puis des voitures discrètes insérées aléatoirement dans les convois.
L'objectif affiché est un retour à la normale. Mais celui-ci prendra du temps, reconnaît Nicolas Mathéos.
Il faut amorcer un bon début pour que rouler sur les RP1 redevienne une chose normale.
Depuis la mise en place des convois, aucun incident impliquant des civils n'a été signalé. Le nombre d'automobilistes à tenter la traversée a lui plus que doublé.
Et puis sachez que la première visite sur le terrain du nouveau ministre des Outre-mer sera consacrée à la Nouvelle-Calédonie. François-Noël Buffet restera 3 jours sur le Caillou du mercredi 16 au vendredi 18 octobre. Augmenter la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, cette mesure prévue dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement Barnier, a fait bondir le groupe Dubreuil, autrement dit les compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee. Il faut dire que la taxe en question pourrait être multipliée par 3. Franck Aristide, la première Guadeloupe.
De 60 à 200 euros, la taxe de solidarité sur les billets d'avion devrait tout simplement tripler. Air Caraïbes et French Bee voient rouge. Elles dénoncent une menace pour la compétitivité des compagnies françaises et pour l'accès au transport aérien des ultramarins notamment. Cette surcharge fiscale, explique le groupe Dubreuil, viendra creuser les inégalités pour les populations comme les nôtres, plus dépendantes à l'avion, en limitant la capacité à maintenir des tarifs compétitifs. Dans un contexte inflationniste où les prix des billets, singulièrement ceux vers les Antilles, sont déjà problématiques, pour Air Caraïbes, la forte hausse des tarifs qu'entraînerait cette mesure mettrait tout simplement en péril les liaisons entre l'Hexagone, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, jusqu'aux rotations inter-îles Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth et avec le reste de la Caraïbe qui seraient impactées selon le groupe Dubreuil, mettant à mal le développement économique de la zone. Et de conclure qu'au moment moment où l'aviation commerciale, toujours fragile, se relève à peine de la pandémie Covid. L'application d'une telle mesure serait un coup de massue pour l'ensemble du secteur aérien français dans une bataille des prix où chaque centime compte.
Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.
Merci Benoît Ferrand, bon week-end à vous aussi. Mais restez donc avec nous, 24 ans en France continue.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et on termine la semaine avec le Conseil Santé de Caroline Paré et une grande question, comment la santé digitale peut réduire les inégalités de genre ?
Priorité Santé quitte aujourd'hui les studios de RFI pour le sud-ouest de la France, où s'est tenue hier la conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et avec nous, quatre invités pour parler de santé au féminin, pour essayer de comprendre dans quelle mesure la santé numérique peut permettre de réduire les inégalités de genre. Mieux sensibiliser, mieux soigner, accéder à certaines spécialités, mais aussi impliquer davantage les femmes dans ce secteur de l'innovation numérique en santé. Et à ce sujet, nous donnerons la parole à Assiatou Kamanyang, qui est responsable des politiques et de la recherche pour l'ONG Speak Up Africa.
On voit souvent ça en fait avec les innovatrices. Une innovatrice qui était en fait à un moment de sa vie une adolescente qui grandissait dans une zone rurale, disons quelque part dans la région de la Casamance par exemple, et qui a eu à observer des écarts en fait de connaissances par rapport à l'hygiène menstruelle par exemple, parce que c'est quand même une thématique qui revient souvent, et qui a ensuite développé une innovation, une solution digitale pour permettre aux adolescentes de pouvoir en apprendre un peu plus à travers des applications et autres, est une femme, en fait, que la communauté va voir comme une femme leader qui répond, en fait, à un besoin qui a été soulevé par la communauté.
Il y a une dimension un peu de militante dans tout ça.
Absolument, absolument. Et c'est même la vision, en fait, du projet AWID, c'est que ces femmes issues de communautés deviennent des femmes militantes, leaders, qui s'assurent en fait que les besoins de leur communauté sont pris en compte dans les politiques nationales.
On se retrouve avec nos invités pour parler du rôle de la santé numérique, notamment dans la réduction des inégalités de genre. Mieux informer, mieux prévenir, mieux prendre soin. Priorité Santé, c'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté. Caroline Paré, 24 ans en France, c'est terminé pour ce soir. Merci à Lorraine Nemoza à la réalisation. Benoît Solmignac à la rédaction en chef. Dans quelques instants, vous retrouvez Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Mais pour l'heure, nous, tout de suite, on file à New York. Et la bourse, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
Après son record de la veille, le Dow Jones bondit de 410 points de plus et atteint donc un nouveau record à 42 864. L'indice du Nasdaq s'offre 61 points et finit à 18 343. Deux nouvelles aujourd'hui comblent Wall Street. La première, l'inflation au niveau des prix de gros au mois de septembre aux États-Unis est nulle. Et lorsque l'on élimine les prix alimentaires et ceux de l'énergie, les prix de gros n'augmentent que de 0,1%. C'est rassurant, surtout après la publication jeudi d'un indice des prix à la consommation légèrement plus fort que prévu. Autre bonne nouvelle, deux des plus grandes banques américaines publient des résultats trimestriels meilleurs que prévu. JP Morgan Chase, numéro 1 américain, est dopé par ses activités de banque d'investissement et par ses résultats dans le trading. La direction de JP Morgan Chase juge que l'économie américaine a réussi son atterrissage en douceur. Elle note que les consommateurs les moins riches, toutefois, donnent des signes de retard de paiement et la banque augmente ses provisions pour pertes éventuelles à venir. Le cours de JP Morgan Chase bondit de quelque 5%. Par ailleurs, Wells Fargo rend compte également de performances supérieures aux anticipations. L'action de Wells Fargo grimpe de quelque 6%. Le contraire se produit pour Tesla. La présentation du nouveau robot-taxi du constructeur automobile n'a pas enthousiasmé les experts. Après une série de hausses, le cours du baril américain de pétrole cède moins d'1% mais reste proche de 76$. L'euro est stable à 1,0935$. L'indice Dow Jones gagne 1% pour établir un nouveau record. Le Nasdaq s'offre 0,3%.
Religion du monde,
Véronique Guémard.
Un an après les massacres du 7 octobre par le Hamas en Israël, les guerres à Gaza puis au Liban, comment célébrer les fêtes juives du mois d'octobre, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, alors que résonne le fracas des armes? Comment continuer à se parler, ne pas sombrer dans la déshumanisation de l'autre?
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.